Tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi de Foulia Liga. Au programme, le très grand match de Monsieur Wissam Ben Yedder, l'éternel Christian Stuani. On va parler aussi des flops de cette cinquième journée de Liga avec notamment Villarreal et Diego El Cholo Simeone. Et notre grand focus de la semaine sera consacré au Deportivo Alavés. Et si on a le temps, on fera un petit point sur les trois gros matchs à ne pas louper de la sixième journée qui est en semaine. Cette semaine, la joyeuse bande est chaude. Benjamin Brochet, from Marseille, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es si proche de moi maintenant.
Ouais, on se rapproche, on se rapproche. C'est
À vol d'oiseau,
y a pas de...
on est pas mal. Miguel Hernandez, from Switzerland, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, on va attaquer par le grand match de Wissam Ben Yedder, parce que justement, Benjamin a réclamé sa titularisation à cor et à cri. Plusieurs fois, il a déjà réclamé la saison dernière. Cette saison, encore une fois, titulaire à la Ciutat de Valencia contre Levante et il a mis un triplé. Ça rappelle aussi que Ben Yedder doit, l'impression qu'il doit toujours, toujours, toujours gagner et regagner sa place.
Il doit toujours en faire trois fois plus. C'est vraiment incroyable parce qu'on l'a vu depuis le début de saison, c'est le meilleur marqueur du CDA. Il se bat à chaque fois qu'il est sur le terrain, ça se passe bien. Il a les occasions, il s'entend très très bien avec Sarabia, il s'entend très bien avec Mudo Vasquez. Du coup, on comprend pourquoi il n'est pas titulaire d'entrée. C'est pourquoi c'est pas André Silva qui doit se battre pour la place. Et non, à chaque fois, il doit se battre, à chaque fois, il doit revenir. Là, il est titulaire en pointe avec le Portugais. Marquer un triplé, en plus, les trois fois, c'est trois merveilles. C'est une fois, c'est un bon déplacement. La deuxième fois, il va le chercher tout seul. Et le troisième, c'est aussi un bon déplacement. C'est vraiment un garçon qui est super intéressant, qui se bat sur tous les ballons, qui est vraiment beau à avoir joué parce qu'il sait faire énormément de choses, malgré qu'on soit, quand on a un garçon qui est technique et qui a un peu du mal. C'est un mec qui est très bon dans le physique, qui a un très bon physique, qui est bon dos au but, qui est bon dans les petits espaces, qui sent très bien les coups, très bonne frappe de balle. Ça fait plaisir de le voir réussir à se tripler en 45 minutes face à un Levante qui a fait quand même pas mal de cadeaux aussi. Il fallait les saisir. Après, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à s'installer? Est-ce que Machin va enfin l'installer? Ou il va, comme d'habitude, devoir se battre, se rebattre? Parce qu'on se rappelle, la saison dernière, quand il marque le doublé à Old Trafford, on se dit, ça y est, il va être intouchable, il va être numéro 1, et il revient sur le banc, et on remet quelqu'un d'autre dans les pattes, dans ses pattes, qui est moins bon. Donc est-ce qu'il va enfin avoir une continuité qui va faire du bien à lui, à Valence, et à Séville? J'espère.
Oui, quand je dis qu'il sent bien les coups, c'est son troisième but quand il pique le ballon à Hoyer. D'ailleurs, le caméraman n'a pas suivi l'action.
On a dû le revoir en différé. Et en plus, ça symbolise un peu ce qu'est Wissam Ben Yedder en attaque, parce que c'est un mec aussi qui se bat sur tous les ballons, qui est tout le temps là à essayer de revenir, à presser, à jouer dans les pieds. Il n'est pas, dès qu'il a un ballon qui est à 3 mètres, il va pas le laisser filer, il va faire la course pour le jouer, même s'il a perdu ou il n'a pas gagné en tout cas.
Miguel, t'en as pensé quoi du match, notamment sa complémentarité avec Sarabia? Est-ce que tu penses, alors Luis Muriel s'est engueulé avec Machin lors d'un match européen, c'est en début de saison. Est-ce que tu crois toi qu'il vaut mieux le privilégier lui à André Silva, d'autant qu'André Silva est simplement prêté par le Milan?
Oui, bah, c'est vrai que Silva, il est juste prêté. Après, Ben Yedder, il est là depuis plusieurs années. Il connaît mieux l'équipe, il est mieux rodé. Comme l'a très bien dit Benjamin, il a toujours dû gagner sa place plus que les autres, alors que pourtant, chaque fois qu'il a joué, il a été très efficace. Pour moi, oui, il devrait le favoriser. Après tout, c'est vrai qu'André Silva, il a fait un très bon début de championnat, notamment son premier match où il a mis, je crois, un hat-trick, si je ne me trompe pas.
Oui, contre le Rayo.
Voilà, contre le Rayo. Mais je pense qu'au vu des efforts que fournit à chaque fois Ben Yedder sur le terrain et que au final bah, André Silva ça reste le petit nouveau, donc au final c'est plus à lui de faire sa place qu'à Ben Yedder, parce que sur le long terme effectivement, vu qu'André Silva est prêté, Ben Yedder il va pas être transféré normalement, donc il risque de rester. Donc autant construire une équipe dans laquelle il est à la pointe de l'attaque quoi, où il peut être le plus efficace et aider Séville, parce que Séville fait pas un très bon début de saison. La patte à Machin, elle a du mal un peu à prendre. Du coup, bah justement, avoir quelqu'un, un joueur comme Ben Yedder dans l'équipe, justement, qui à chaque fois est là, est présent, il répond présent, ça peut être que un atout pour Séville.
Et ça fait 3 matchs que Séville n'a pas marqué en Liga, hein.
Son septième but en 10 matchs officiels cette saison à Béninère. Il a bien été aidé par les tours préliminaires où Séville a.
Oui, ça compte pas, ça compte pas, ça compte, mais bon.
D'accord. Non, mais pour le coup, oui, ça montre que c'est un garçon qui a vraiment confiance. Et là, après, pour le coup, parce que là, même là, Belvedere n'est pas passé devant Silva. Il était associé à André Silva. On était sur ce qu'aime aussi faire Machine, c'est soit jouer avec 2 pointes, soit avec 1 pointe. Quand il a une pointe, j'ai l'impression qu'il préfère André Silva. Yedder, il avait été déjà associé en meneur de jeu un peu reculé, numéro 9, 9,5 qui bouge un peu. Là, ils étaient deux en pointe, mais c'est vrai que je ne sais pas si dans l'idée de Machine, Yedder peut occuper seul le poste du numéro 9. Parce que c'est vrai qu'il demande beaucoup de choses. Même si on l'a dit, Yedder sait faire beaucoup de choses. Et normalement, l'époque où il était tout seul en pointe à Toulouse avec Casanova qui lui balançait des gros chaussons devant, ça l'a forgé. C'est vrai qu'André Silva est un peu plus loin, un peu plus trapu, est meilleur de la tête. Ou peut-être que pour Machin, préfère avoir Silva seul en pointe parce qu'il permet de bien rechercher le ballon, de faire la tour de contrôle qui aime bien faire Machin quand il n'arrive pas à relancer au sol.
Non, mais justement, Machin, la saison dernière avec Gélone, il avait son duo d'attaquant fixe, Paul Toustouani. Est-ce que quel duo vous verriez-vous pour que ça relance Séville? Un duo qui soit quand même plus ou moins fixe, que vous voyez un Ben Yedder Sarabia, un Sarabia Ben Yedder ou un Sarabia André Silva. Votre avis, qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux? Ou est-ce qu'il peut aligner carrément les trois dans une sorte de trident offensif qui a l'air quand même assez performant, même si bon, voilà, ça restait l'éventé dans un très mauvais jour.
Pour le coup, je pense qu'on peut avoir les trois idées. On peut avoir Ben Yedder seul en pointe avec Sarabia et Mudo Vasquez, un peu comme quand avec Garcia, qui était Adirola, qui était plus un passeur, un mec qui redescendait dans ses lignes de terrain, qui faisait plus sa liaison, alors qu'un Porto était vraiment plus dans la rupture, comme les Sarabia. Sarabia, il aime quand même beaucoup passer dans les espaces, une très bonne qualité de passe et une très bonne qualité de frappe. Ce qu'a fait Porto avec Girona sous Machin la saison dernière et en pointe Ben Yedder. Après, voilà la vraie question, ça va être le jeu de tête et le jeu en déviation de Ben Yedder, parce que même s'il est bon dos au but, même s'il sait se battre sur des ballons aériens, il préfère quand même avoir les ballons dans les pieds. Du coup, comment on peut oublier ça? Et je pense qu'on peut avoir l'idée d'avoir Silva, Ben Yedder et Sarabia, et aussi Sarabia Ben Yedder et Ludo Vasquez en fonction des matchs, en fonction des adversaires.
Miguel, pour conclure.
Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, Ben. Je vais pas tout répéter ou reformuler, mais effectivement, je pense que le choix de l'attaquant, il va aussi se faire beaucoup à travers le système. Et Machin, il a l'air assez obstiné avec son 3-5-2. Enfin, 3-5-2 sur le papier. C'est pour ça que moi, jouer avec les trois, je vois, c'est un peu compliqué au niveau de l'équilibre de l'équipe. Je vois bien plutôt un Sanabria Ben Yedder. Après, suivant le type de match et de nouveau suivant le jeu que veut mettre en place, effectivement, pour les ballons longs, il vaut mieux privilégier André Silva. Mais si c'est plus dans les combinaisons, jouer dans les espaces, je pense qu'il vaut mieux privilégier Ben Yedder.
On va enchaîner avec le lien est tout trouvé, puisqu'on parlait de Gélona et de Machin. On va justement parler du match, le derby catalan de ce week-end. Donc, Barça-Gélona, pardon. Gélona-Barça, c'est autre chose. Ça va être le match à Miami, le fameux, avec Rubiales qui était bien bouillant avec Tebas ce week-end. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rachète du pop-corn. Mais donc, Gélona qui a accroché le point du nul, qu'on sait que la saison dernière, ils en avaient pris 6. Ils avaient pris 6-1 la saison dernière. Ils avaient ouvert le score avant de se faire étrier. 2-2, doublé de l'éternel Cristian Stuani. Et jusqu'à présent, Barça a fait carton plein. Finalement, ils perdent 2 points à la maison. Avec l'expulsion de l'Anglais, Miguel, qui était un petit polémique avec la VAR.
Ouais, les polémiques avec l'utilisation de la VAR. Après, bon, chacun sera juge. C'est vrai que ce genre d'action, on les voit souvent. Le coude, bon, on voit clairement qu'il n'y a pas l'intention de faire mal. Beaucoup parlent de l'intentionnalité du geste. Même moi, là, même avec le recul, après avoir revu l'action 30 fois, j'arrive pas à déterminer si l'arbitre a eu raison ou pas. Pour moi, je pense qu'un jaune aurait suffi. Le rouge, c'est un peu excessif, à mon avis. Donc voilà. Maintenant, le problème, c'est que de nouveau, tout est question d'interprétation et le VAR ne résout pas les questions d'interprétation. Elle résout les choses de manière manichéenne, c'est-à-dire oui ou non. Tout ce qui est sujet interprétation, avec ou sans VAR, ça pourra de toute façon être discuté. Voilà. Maintenant, concernant l'absence après de l'anglais, je trouve que Valverde a fait une erreur en tardant à faire le changement en sortant Dembélé. Parce que c'est à ce moment-là que Stuani égalise. C'est dans ce laps de temps avant la mi-temps. Donc voilà. Après, est-ce que le sortir Dembélé, est-ce que ça a été le choix le plus judicieux? Je pense, parce que les autres sont intouchables. Enlever un Vidal au milieu, qui est un gros bosseur, qui avale pas mal d'espace, ça aurait été contre-productif. Donc voilà, je pense que là-dessus, Valverde, il a fait le meilleur changement possible, tout en le faisant trop tard, selon moi.
Gros match de Luis Suárez aussi.
Oui, à signaler, gros match, parce que depuis le début de la saison, c'était plutôt moyen, pour pas dire plus.
Oui, c'est comme la saison dernière, il avait du temps à se mettre en route. Il avait même une panne assez prolongée. Je crois que c'était 9 matchs, si je me souviens bien, avant de retrouver le chemin des filets. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que oui, c'est un gros, gros diesel, Luis Suárez.
Surtout que quand il n'y a pas de vrai concurrent, ça peut à te surpasser. Quand tu as des mecs comme ça qui ont quand même beaucoup gagné, qui reviennent de la Coupe du Monde, tout ça, ça reste compliqué à se remettre en route et à se remettre dans le bain de la compétition. Et je pense que c'est ce qui lui manque à Luis Suárez, c'est un concurrent qui le pousserait à être à 120% à chaque match pour sécuriser sa place.
On va se refocaliser sur Girona, qui a changé d'entraîneur. C'est Eusebio Sacristán, qui a pris la place de Pablo Machín. Pablo Maffeo, qui a fait une excellente première phase, la phase aller de Liga la saison dernière, est parti en Allemagne. Et c'est Porro, c'est ça que c'est, oui, qui l'a remplacé avec et plutôt bien. Ça n'a pas trop bougé, Girona, et ça prend déjà 8 points depuis le début de saison, et c'est déjà le haut de tableau. Est-ce que vous pensiez que ça allait un peu prendre plus de temps, que la patte Sacristán mettrait un peu plus de semaines à fonctionner après le passage évidemment très emblématique de Machin?
Moi, j'avais très peur pour déjà parce que passer les machines à Sacristán, c'était quand même un grand écart parce que, un, Machine est quand même adepte de la verticalité, n'hésite pas à balancer des chaussons devant, n'hésite pas à allonger quand il y a besoin, alors que Zébio est quand même quelqu'un qui préfère la possession, qui aime faire tenir le ballon, qui aime que ses joueurs, que ses équipes maintiennent le cuir et vivent avec. Du coup, c'est vrai que ce changement me faisait un peu peur parce que les joueurs de. Surtout que c'est un effectif qui n'a pas beaucoup bougé, ou comment ils allaient pouvoir adapter ça, comment ils allaient pouvoir intégrer cette nouvelle façon de jouer. Et en plus, leur premier match que j'avais regardé contre Valladolid, où ils ont tenu le cuir, mais ils ont eu très peu d'occasions, j'ai eu vraiment peur d'avoir un gros souci à l'image, d'avoir un club qui allait tomber dans une crise et avoir du mal à s'en remettre. Mais non, après, c'est vrai que la victoire à Villarreal a été en trompe-l'œil, mais voilà, maintenant ils ont réussi à enchaîner. On a des belles séquences. On a un Stoney qui revient au bon moment et qui revient en forme. Parce qu'on pouvait penser que la saison dernière de Stoney était un peu le cerise sur le gâteau de sa carrière et il allait retomber. Parce que c'est quand même pas un garçon qui marquait aussi régulièrement et aussi souvent. Là, non, il continue, il est toujours aussi bon. Il fait toujours autant de bien à son équipe. Porto, qui est resté, est toujours aussi intéressant. Non, surpris, oui. Mais agréablement, et c'est tant mieux pour ce club qui reste un club fort, fort intéressant et fort agréable à aborder.
Miguel, est-ce que, alors déjà, on est persuadé déjà que Porto qui soit resté, c'est la grosse affaire de Girona, parce qu'il était très, enfin, il avait une clause de 20 millions et Séville n'a pas voulu la lever. Mais comme d'habitude, dans les clubs comme ça, qui sont, on va dire, qui vont plutôt jouer la seconde table, le maintien, avoir un buteur comme Stoane qui enquille les pions, c'est forcément à un moment ou à un autre, c'est ça qui te fait prendre des points, et que ne pas avoir de buteur de ce calibre, C'est ce qui fait souvent la différence chez les, ce qui peut, entre la Primera Table, voir l'Europe et descendre.
C'est clair, surtout que bah, Stouani, c'est un... il a quand même 31 ans, donc c'est même, il me semble qu'il a 31 ans. Donc l'année dernière, il avait déjà fait une super saison. Donc là, on se demandait justement quelle saison il allait faire, parce qu'on aurait pu se dire que c'était une saison en sur-régime. Mais pas du tout, il a recommencé sur de bonnes bases. Et je pense que l'un des gros avantages justement avec Stouani, c'est qu'il connaît très bien l'équipe. Comme l'a très bien dit Ben, l'équipe elle a pas tellement changé. Du coup, il y a certains automatismes qui restent, même si le système de jeu n'est pas le même. Du coup, bah, son entente avec Porto et avec les autres milieux sont, restent les mêmes. Et ça, je pense que c'est très profitable à Girona. Moi, j'avais peur justement que Girona, en changeant d'entraîneur, en vienne à s'effondrer. J'avais peur que ce soit ce genre d'équipe, qui soit une équipe révélation avec un système donné et un entraîneur. Et puis que soit l'équipe soit démantelée, soit que l'entraîneur parte et que du coup cette équipe s'effondre et descende l'année suivante. Et en gardant justement cette base d'équipe, bah, ça a joué en faveur de Girona. Et Stuani, c'est un super buteur, je trouve, qui est quand même assez peu valorisé par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que c'est parce que Girona n'est pas aussi médiatisé que d'autres clubs? Peut-être, mais je trouve que ça reste c'est un super buteur qui est assez complet et qui est, ouais, à mon sens, assez peu valorisé par rapport à d'autres avant-centres.
Bah, il a mis. Oui, vas-y, Ben.
Et peut-être parce que sa feuille de stats avant cette très mauvaise saison, il a enquillé 21 pions la saison dernière, elle est quand même faible. En championnat, il avait passé qu'une seule fois la barre des 10 pions. C'était en 2014-2015 avec l'Espagnol, où il me semble qu'il était surtout un super sub. Il a marqué beaucoup de pénaltys. C'est que voilà, il a une révélation sur le tas, un garçon qui était beaucoup plus connu par son côté travailleur, un garçon qui allait beaucoup au charbon, c'est un mec qui a quand même plus régulièrement plus de jeunes qui marquaient de buts, du coup ça va se compliquer quand t'es un attaquant. Mais voilà, pendant longtemps il avait ce côté d'image-là d'avoir d'être un attaquant qui va au charbon, qui se bat, qui va au duel constamment, mais qui est pas très bon avec ses pieds, pas très bon. Là encore, il marque beaucoup de la tête. Mais voilà, là, il a une révélation sur le tard, c'est tant mieux. Donc, je ne pense pas qu'on peut espérer qu'il ait une aura internationale ou même sur le continent parce que ça reste un garçon qui a une révélation sur le tard.
Non, mais c'est sûr, mais est-ce que vous êtes surpris qu'il soit resté? Parce que, a priori, il pouvait aller un cran plus haut. Hein.
Bah, lui, il me semble que cet été, c'est un des seuls qui a dit, parce qu'il me semble qu'il était prêté par Middlesbrough la saison passée, que Girona a levé la clause, je crois que c'est en février ou en mars, et lui, il a dit qu'il ne se voyait pas bouger parce que Kike Garcel, le directeur sportif, lui a fait confiance, lui a dit voilà, il continuerait à le valoriser comme ils l'ont valorisé à cette saison-là, qu'il était dans un club familial, qu'il allait avoir, qu'on lui allait laisser des passes droits qu'il n'aurait pas ailleurs, il était plutôt intéressant. Lui, il vient faire 32 ans dans un mois, je ne comprenais pas pourquoi il allait partir. Par contre, comme tu l'as dit, Porto, Granel, qui auraient pu bouger, Adai, les garçons, même Bounou, les garçons qui auraient pu bouger, et qui, on a dit qu'ils ont eu des offres, mais qui ont préféré soit rester, ou les offres, comme tu l'as dit, pour tout, que Séville n'a pas voulu mettre le dernier million pour faire péter la clause, ou il est resté, il reste concerné pour l'équipe.
Ouais, et puis tu en as parlé de Kike Kal, celle qui a été prolongée là, en fin de saison dernière, et ça, c'est peut-être un des meilleurs, peut-être la meilleure recrue de Girona en fin de saison.
C'est garder un meilleur. Parce qu'on l'a vu, le directeur sportif, ça reste maintenant un. C'est aussi recruté et aussi scruté qu'un joueur parce qu'il y a un bon directeur sportif qui te fait gagner des matchs, qui te fait faire des bonnes saisons. Voilà, que Girona garde un mec aussi intéressant et aussi important pour le club, c'est tout bel.
On va passer maintenant au flop de cette cinquième journée de Liga. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de Valence. Et cette fois-ci, on va parler du voisin, Villarreal, parce qu'il y a un derby de la communauté valencienne qui s'est achevé sur un magnifique 0-0, la belle petite purge des familles. Alors, avant de parler de foot, on va quand même parler des horaires. Jouer à 4h15, un match comme ça, c'est absurde. On peut même considérer que ça atteint à l'équité du championnat, parce que quand il y a des matchs à midi, à 13h, à 16h15, avec ces températures-là, c'est de la folie. Petit aparté, Rubiales a posté un tweet sur les coups de chaud des supporters pendant les matchs. Alors, a priori, la photo qu'il a postée, c'était une ancienne directrice de com de Levante, là où a joué Rubiales. Donc voilà, petit instant popcorn. Rubiales, il est un peu gonflé parce qu'il organise la Liga Iberdrola, donc le championnat féminin. C'est la Fédé qui l'organise et pas la Liga. Et les matchs, l'essentiel des matchs, c'est à midi, 13h, 14h. Donc, quand ça l'arrange, les horaires sont scandaleux. Et puis, en fait, lui ne le fait pas. Alors qu'il y a eu des plaintes des joueuses, notamment Ana Romero du Betis, qui dans le civil, façon de parler, est médecin. Donc, voilà. Bref, ce match-là était une purge. Et Villarreal, comme Valence, ne décolle pas. Est-ce que ça commence à devenir inquiétant? Je pense notamment à Gérard Moreno, qui a très très peu de ballons à se mettre sous la dent, et puis les changements en cours de match, Fornals et Baka. Qui veut commencer?
C'est Miguel, j'ai quand même beaucoup parlé.
Miguel, Ben, je te jure, Miguel.
Oui, bon, pour commencer, Moreno, fatalement, il va lui falloir un temps d'adaptation après avoir joué autant de saisons à l'Espagnol Barcelone, où il était, on l'a mentionné la semaine dernière, où il était l'équipe à lui seul et on lui mettait beaucoup de ballons pour qu'il en fasse quelque chose. Là, il tombe dans une équipe où c'est pas pareil. Il joue toujours avec un autre attaquant, que ce soit Baka ou Toko Ekambi. Donc, il a moins de ballons directs à se mettre sous la dent. Je pense que le fait que l'équipe tombe pas à plein régime, ça l'aide pas non plus à se mettre dans les meilleures conditions. Après, je pense qu'il faut aussi beaucoup se poser la question par rapport au coach. Moi, je commence à me poser beaucoup de questions. T'en as parlé FM, notamment à cause de ces changements ce week-end. Il sort Baka et Fornals, qui sont les meilleurs joueurs sur le terrain. Pourquoi, alors qu'il y a 0-0, Valence est à 10. Voilà, c'est des choix qui sont inexplicables comme ça. Donc, est-ce que c'était parce qu'ils ont joué en Europa League? Est-ce que voilà, je sais pas, mais ces choix, c'est vrai qu'ils sont vraiment curieux, parce que Villarreal avait là une bonne opportunité de prendre 3 points précieux vu son début de saison. Et les choix de KR, pour le moment, me laissent assez circonspect.
Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Villarreal d'ailleurs. Les meilleures occasions étaient finalement pour Valence. C'est une frappe de Guedes et je me souviens plus la seconde, mais en gros, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop peu de mouvements. Je m'interroge sur Trigueros aussi, qui a une bonne cote, mais que je trouve moins bon depuis plus d'un an maintenant, par rapport à la saison qu'il avait faite 2016-2017. Je sais pas, c'est très. J'ai l'impression que cette équipe-là régresse petit à petit. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais le 4-4-2, j'ai l'impression que depuis Marcelino, il conserve le 4-4-2. Fran Escriba a pu vivre dessus, puis ça s'est vite essoufflé. Là, Kalier, il est reparti sur un truc à plat alors qu'il avait plutôt l'habitude de jouer en relou. Bizarre.
Là, en plus, le coup, c'est que, comme vous l'avez dit, tu cherches un 4-4-2, ça se construit avec une doublette au milieu, une doublette devant. Qui doit bien s'entendre, qui doit se connaître, qui doit avoir des automatismes pour bien utiliser les espaces, parce qu'il y a beaucoup d'espace à gérer au devant et au milieu quand tu joues en 4-4-2 à plat. Et là, cette doublette-là, Ravi a du mal à les trouver, l'entraîneur de Villarreal, parce que devant, on a dit, dans son esprit, on a vu Gérard Moreno est titulaire d'entrée, et après, à côté, il tourne, il a mis un peu Toko Ekambi, il a mis un peu Baka, il essaye, ça ne marche pas. Du coup, en plus, au lieu d'essayer de voir ça sur 3-4 matchs, ça change de match. Au milieu de terrain, comme tu l'as dit, il y a que Trigueros qui est titulaire quasiment indiscutable. C'est un petit Cazorla a un peu joué, après il a joué sur les ailes, après Fornals a joué sur les ailes, après il a essayé Toura, après il a essayé Funes Mori, après il a essayé Morlanes. Il essaye, il se cherche, il ne sait pas comment il fait. Il a l'habitude de faire régulièrement tourner ses équipes, mais à force de toujours faire tourner, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, qui se connaissent, qui savent ce qu'ils doivent faire avec son coéquipier. On a des matchs comme là contre Valence, parce que Villarreal a fait du ballon. Villarreal a réussi à amener le ballon dans les zones dangereuses, mais n'a jamais su faire un décalage franc, très peu. On a vraiment eu du mal à avoir à peine la ligne de son côté et Fornals avant sa sortie. Et sinon, on avait surtout soit des exploits individuels, soit des ballons qui sont perdus par une faute d'inattention, par une mauvaise passe, par une passe qui est faite à contre-temps. C'est vraiment ce qui choque, c'est que Villarreal n'a pas cette cohésion et n'a pas cette cohérence dans le jeu qui peut lui permettre d'aborder des matchs des moments moins bien en pensant quand même qu'ils vont réussir à se créer d'occasion. Parce que quand tu ne crées pas d'occasion, tu ne gagnes pas. Et là, quand vous l'avez dit, contre Valence, c'est pas une occasion. Contre les Ganes, quand tu gagnes, c'est un bel hold-up. Donc voilà, ça reste inquiétant pour cette équipe. Et comme tu l'as dit, la, passé après Marcelino, ils ont du mal à trouver le, la personne qui va redorer le blason. Et ils n'ont pas, je pense, le caractère pour changer ce 4-4-2 qui a fait les plus belles années du temps. Récemment, les plus belles années du temps. Il n'y a personne qui va arriver à amener quelque chose de nouveau pour passer sur un nouveau cycle. Donc, on pivote sur un ancien cycle qui n'est pas bien exploité. Donc, ça vient des saisons comme ça, ou des saisons où Villarreal arrive à être placé parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, mais on n'a plus les folies qu'on avait avant, les très bonnes équipes qui, où, où ça faisait peur de se déplacer à la Ceramica.
Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que Pablo Fornals souffre du syndrome Carlos Soler, à savoir qu'il est trop excentré et pas assez axial, et que le jeu de son équipe en pâtit? Moi, je préférerais le voir beaucoup plus axial, personnellement.
Tu l'as dit, quand tu joues un triangle, ou en tout cas quand Villarreal joue avec un 10, il me semble que j'ai le match contre le Real qui me vient en tête avec le formidable raté de Mesunal et Fornals qui m'a fait un lobé, il me semble. Mais oui, quand Fornals est en 10, ça reste plus intéressant parce qu'il a quand même une palette... palette technique, vraiment au-dessus de la moyenne. Mais voilà, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Là, Trigueros, il a du mal à tenir seul le rôle de sentinelle. Peut-être que Manuel Itoura va réussir à le faire. Mais ils sont quand même orphelins de Rodri dans le cœur du jeu. Et il manque ce garçon qui va être la sentinelle, qui va sécuriser tout le monde. Et même, tu avais Samu qui était quand même, c'était pas le mec le plus intelligent, mais c'est un garçon qui fait des ballons, qui essaie de faire des choses, qui essaie de donner vie à tout ça. Ça reste des absences qui sont dommageables pour Villarreal.
Dernière question, est-ce que vous pensez que Karl Toko-Ekambi a perdu sa place pour un moment par rapport à Bakka?
Vas-y, Miguel.
C'est difficile à dire parce que ce sera sûrement. Je pense que Kayer est encore en train d'essayer des choses, donc ça n'a pas exclu que les trois devant. Soit chacun leur tour un peu sur le banc pour voir la formule qui marche le mieux.
Personnellement, je pense que Bakka ne peut pas être titulaire.
Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il est meilleur quand il sort du banc. Surtout que vu l'investissement qu'ils ont mis sur Gerard Moreno, le mettre sur le banc, ça ferait un peu tâche.
Ils ont une attaque qui est quasiment à 40 millions avec Karl Toko-Ekambi. Ils ont acheté 18.
Justement, donc une attaque à ce prix-là, difficile quand même de les mettre sur le banc. Après, on n'est pas non plus dans les secrets du vestiaire à l'entraînement, donc on ne sait pas la manière avec laquelle les joueurs s'entraînent. Mais voilà, pour moi, je pense que Bakka ne doit pas être titulaire. Et je pense que Toko-Ekambi apporterait quand même plus à Gerard Moreno que Bakka.
Ah, j'ai oublié une question. Alfonso Pedrala, ça vous mettrait titulaire et où? Latéral ou ailier?
Je sais pas, c'est compliqué.
moi, je le mets latéral. Alors que j'adore Jaume Costa, mais ça fait 2 ans qu'il n'y est plus.
Je pense qu'on peut le tenter là, parce que ça va être Pedraza, ça reste un
Tu peux faire un côté de la mort aussi, parce que tu te prends Pedraza ça et Jaume Costa, tu peux péter un câble. Quand tu es défenseur côté droit.
L'enfer. Mais Pedraza, ça reste quand même un garçon qui a la folie dans les jambes. Et il est intéressant, surtout quand il a de l'espace devant lui. Du coup, être latéral, ça peut être intéressant pour lui, pour qu'il puisse prendre de la vitesse et faire le décalage. Mais c'est un garçon qui doit être titulaire. Après, par exemple, mettre Cazorla qui finit sur le banc alors qu'il a débuté la saison. Et que c'est pas
mais ça, il est obligé de le faire. Cazorla, il peut pas.
Il a pas les jambes.
Il peut pas jouer toute la saison. Il peut pas enchaîner un mois de compétition comme ça.
Il est rentré. C'est la.
Oui, il est rentré après Cazorla. Mais bon, après, pour influencer sur un match, c'est plus compliqué. Mais il ne peut pas le faire jouer toute la saison, Cazorla. Cazorla, il a 30 matchs dans les jambes, je pense.
Il a surtout qu'il a commencé la saison dans la peau d'un titulaire. Il a fait les deux premiers matchs, il me semble. Ou les trois. Mais après, il a fini sur le banc alors qu'on savait très bien, comme tu l'as dit, qu'il n'a pas la physique pour enchaîner. Peut-être qu'il a fermé trop tôt alors qu'il aurait pu le gérer différemment. Et lui permettre de revenir petit à petit au niveau.
On va passer au deuxième flop de la semaine, et c'est un flop qui a gagné, et c'est El Cholo Simeone. 2-0 contre Getafe au Coliseo Alfonso Pérez. À titre personnel, ça m'est sorti des yeux ce match.
On est deux.
Ouais, parce que on a beaucoup parlé la saison dernière, notamment avec Nicolas Faure, qu'on embrasse, puisque maintenant, dans sa famille, ils sont trois. Donc, enhorabuena, Nico. C'est pénible de voir l'Atlético de Madrid, parce qu'au bout d'un moment, Simeone, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est à Atlético, change de disque, on a compris comment ça fonctionnait. Alors, j'aime beaucoup le football défensif, le football rugueux, mais quand même, à un moment, il faut passer à autre chose. Et moi, je pense que Griezmann, il pâtit énormément de ça pour gagner le Ballon d'Or. Il aurait une équipe qui serait un peu plus folle, ça, il gagnerait au change. D'autant qu'en plus, ils ont les moyens de le faire.
Tu m'ôtes les mots de la bouche, FM. Je pense qu'effectivement, Griezmann, il pâtit énormément de ça et que le premier coupable, c'est Simeone. Il doit effectivement changer de disque, là, toutes ces rengaines à chaque fois sur les budgets, qu'il y a deux budgets qui sont plus gros, que c'est normal qu'ils perdent. Mais lui, il pense jamais à la différence de budget qu'il a avec Eibar, avec Retafe, avec Villarreal, avec les autres équipes. Ça l'intéresse pas, par contre.
Non, mais il est en roue libre là-dessus et c'est assez exaspérant quand même.
C'est exaspérant, enfin il y a tout qui est exaspérant en fait, même le jeu de l'Atlético, quoi. Enfin, je veux dire, de nouveau, franchement, quelqu'un qui regarde le match, Retafe mérite tellement mieux. Il y a un éclair de lucidité de Lemar en première mi-temps qui met une frappe géniale. Après, bon ben voilà, il y a la malchance que ça tape dans le dos de Soria et ça rentre. Mais une fois qu'il y a eu ce but assez tôt dans le match, 13e minute, je crois. Après, derrière, rideau. Ils n'ont rien fait. C'est Retafe qui a fait le jeu, qui a attaqué. Et pourtant, en plus, le deuxième but de l'Atlético en deuxième mi-temps, la combinaison, le départ de l'action, la construction, c'est super bien joué. Et on ne peut que se poser la question, qui est la même qui se pose année après année, pourquoi est-ce que l'Atlético ne joue pas tout le temps comme ça? Est-ce que ça vient d'une incapacité de Simeone à le faire? Peut-être. Mais avec les joueurs qu'il a, c'est presque honteux qu'ils jouent de cette manière. Ouais, c'est presque honteux.
Je me demande si ce n'est pas l'équipe la plus forte de l'histoire de l'Atlético.
Oui, je pense que c'est l'équipe même du championnat espagnol qui s'est le mieux renforcée. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont un vrai bon qu'ils n'avaient pas avant.
Quand ils se plaignent beaucoup des budgets, il faut quand même lui rappeler que Thomas Lemar a acheté 75 millions quand même au Mercato.
Oui, mais ça, dans ce sens-là, ça ne l'intéresse pas.
Ah, mais oui, parce que... C'est toujours pareil.
Il a assez de mauvaise foi.
CLS, il se plaint souvent aussi. Oui, non, mais ça, c'est. Après, c'est un peu le jeu, mais c'est vrai que ça. On a l'impression que c'est toujours, toujours pareil. Là, on ne peut rien dire parce qu'ils viennent de gagner la Ligue Europa. Voilà,
la Super Coupe d'Europe.
La Super Coupe d'Europe aussi. Donc, ouais. Mais bon, ça, moi, comme tu l'as dit, le deuxième but est vraiment très bien amené et il pourrait jouer comme ça tout le temps.
Mais franchement, je me trompe. Franchement. Parce que, ok, Simeone, c'est pas l'entraîneur le plus ambitieux, le plus ambitieux de la rigueur, qui aime les 4-2, qui aime les 2-2-4, qui aime quand ça coulisse bien, qui aime. Et ça reste un entraîneur qui essaye de se moderniser, ça reste un garçon qui essaye de faire mieux. On peut se rappeler la saison où Sampaoli est sur le banc de Séville, où pareil, en début de saison, il essaye de jouer mieux, il essaye de repartir par derrière, il essaye de créer des phases de possession assez grandes et assez longues pour générer après un décalage. Ça ne marche pas. Il revient aux fondamentaux du cholisme pour réussir à accrocher le podium. Là, cette saison, ça reste une des équipes qui repart le plus souvent à terre. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est comment on sait qu'une préparation de choliste, c'est très compliqué. Vous l'avez dit, c'est beaucoup renforcé, mais Anderson, Kalinic, c'est pas encore dans le rythme du tout. Lemar commence à prendre bien le rythme.
Ah, Lemar, il est bon. Hein. Lemar, il est très très bon.
Depuis le début de la saison, il est très très bon, Lemar.
Rodri, il doit apprendre à jouer dans un milieu à deux, parce que dans la saison où il a été le meilleur, sa Villarreal la semaine dernière, il jouait en 6 seul. Il avait Trigueros qui tournait autour de lui, mais il était comme la seule sentinelle. Du coup, moi, j'ai du mal à tomber dessus. Ok, ils sont très mauvais en début de saison, mais ça reste un nouveau cycle. On sait que c'est compliqué à relancer quelque chose.
Mais Ben, là, le nouveau cycle, non, quoi. Non, bah, je comprends ce que tu veux dire, mais non, quoi. Non, c'est toujours le même foot, le même match emmerdant qu'on regarde toutes les semaines, quoi. Après, c'est terrible. J'espère justement, la fin de la semaine prochaine, il y aura le le derby. Là, on va voir un peu, j'espère qu'on va enfin voir l'Atlético capable de jouer tout, de jouer à fond pendant 90 minutes, parce que même, on parlait de Griezmann, mais Coquet, s'il a sauté de la sélection de Luis Enrique, c'est pas pour rien. Hein.
Parce que vous dites que, non, mais moi, j'ai du mal à reprocher au Cholo quelque chose qui l'a amené à être à ce niveau-là et qui a amené l'Atlético à être à ce niveau-là. J'ai du mal à demander, comme on demanderait à Pep Guardiola, de savoir, de se dire, voilà, on va subir sans le ballon. Non, ils ont chacun leur philosophie. L'un essaie de progresser parce que, on le sait, plus tu deviens gros, plus tu as le ballon, donc tu dois savoir jouer avec. Mais l'Atleti, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont appris à souffrir, c'est parce qu'ils ont appris à bien défendre, ils ont appris la rigueur technique, ils ont appris à ne pas buter quand ça allait moins bien, parce qu'on le sait, l'Atleti, c'est quand même le club qui est le plus, comment dire ça, qui est chroniquement instable dans ses ADN, dans son ADN. Du coup, j'ai du mal à reprocher ça à l'entraîneur qui est le Cholo. Après, on est d'accord qu'il doit progresser. Même si on regarde les stats, il est en train d'amorcer une mue. Après, ça va prendre du temps. En plus, voilà, il y a le nouveau cycle. Moi, je les avais défendus la semaine dernière parce que voilà, il y avait l'intéressant recrutement, l'effectif était faible. Là, on ne peut pas tirer à boulet rouge en octobre, sachant que, OK, ils sont en retard en championnat, mais ils ont mis le but en Ligue des Champions. Ça reste pour moi, et je pense pour le club, l'objectif principal, c'est jouer cette finale à domicile, la finale de Ligue des Champions. Du coup, ils sont dans les temps, ils progressent, ils commencent un peu à intégrer leur nouvelle recrue. OK, c'est pas la flamboyant. OK, ça rappelle le match contre le Celta la saison dernière où ils avaient marqué trois buts et après ils avaient géré. Je pense qu'ils vont le faire régulièrement cette saison parce qu'ils doivent quand même se protéger et ils doivent être au top en avril. Est-ce que on doit tout saccager? Je pense que non. Après, oui, on sait, c'est pas l'entraîneur le plus sympa à jouer. Ça reste un football qui est rural, qui est bestial, qui est tout ce qu'on veut. Mais on peut pas lui reprocher ça alors que lui, il essaie de changer, il essaie d'apporter des variations dans son jeu.
Ouais, moi, je pense que le vrai problème de Simeone, c'est que moi, je trouve que ça n'évolue pas footballistiquement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas sa façon de jouer. Le problème, c'est que c'est médiocre. C'est du football médiocre. Ils sont capables de tellement mieux. Et de tellement mieux avec l'équipe qu'ils ont, avec les joueurs offensifs qu'ils ont. Parce que quand même, Rodri, il peut récupérer, il s'est joué vite devant aussi. Moi, je pense que des joueurs comme Coquet sont en train de régresser. Alors, Saoul est en train de prendre son envol, mais Coquet, se trouve que la saison dernière, c'est compliqué, je trouve. Le mondial, c'est aussi un problème de gestion, mais moi, je trouve qu'il est en train de stagner dangereusement. Le problème, c'est que tu as l'impression que, je sais pas, ils sont pas capables de folie, ils sont pas capables de...
C'est quoi? C'est le football rugueux, le football bien organisé qui a permis à des Griezmann, parce que Griezmann de la Sociedad, il était bon, il n'aurait jamais atteint ce niveau-là sans un entraîneur qui lui avait appris la rigueur, qui lui a appris à bien sortir le coup, qui lui a appris à défendre, qui lui a appris à utiliser les espaces, à mieux servir de sa tête, parce que tout ça, c'est le Cholo. Est-ce que Coquet, il ne pâtit pas aussi du fait que le jeu est en train de changer? Que Cholo veut jouer plus au sol, que Cholo veut jouer un peu plus la possession. Est-ce que ce n'est pas plutôt le fait qu'il y ait un changement et qu'il essaye de changer quelque chose qui fait que les joueurs qui sont devenus très forts et qui ont gagné une cote dans un certain style ne sont pas adaptés à ce nouveau style qui est en train de mettre en place? Parce que moi, écoutez, je l'aime beaucoup, mais on ne l'a pas vu dans un autre schéma, on ne l'a pas vu dans un autre style. Saoul, il est en train de progresser, il est très bon parce qu'il suit bien l'évolution du jeu du tennis et il est aussi très très fort, on est d'accord sur ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont été magnifiés par le style du Cholo, par le style qu'il a mis en place et ce qu'il a conduit l'Atlético à être aussi fort. Et ces joueurs-là, on l'a vu, Philippe Luz, qui est parti à Chelsea, c'était mauvais. Il y a plein de joueurs comme ça qui n'ont pas.
Il n'y a pas d'évolution. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours le même match qu'on regarde quoi, depuis des années.
Ouais. Mais là, on ne peut pas nier qu'il y a une évolution. Après, il n'y arrive pas. Il est peut-être limité tactiquement, il doit progresser, il doit apprendre. On a vu des entraîneurs venir en stage à l'Atlético Madrid pour apprendre à défendre. Peut-être que lui devra faire des stages chez les coachs qui ont l'habitude d'avoir la possession et de jouer en attaque placée. Peut-être, c'est peut-être qu'on devra passer par là. Mais on peut, je pense que c'est pas anodin si certains joueurs qui ont été magnifiés par certains styles de jeu empathisent quand ce style-là, même si on est d'accord que le match contre Réparti, il était nul, que le match contre Réparti, il était nul. Donc on peut pas nier qu'il y ait une évolution, qu'il y ait une volonté de jouer différemment. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à début de saison, donc tout ça doit être digéré. Mais je pense que si Coquet est moins bon actuellement, et on l'a vu, il n'est pas super bon dans une procession, et c'est ce que Vertan l'a fait, parce que même le 4-3-3, parce que c'est ce que, comme ça, doit jouer une équipe qui domine, elle doit apprendre à jouer avec le ballon. je pense que Coquet est peut-être trop limité et qu'il n'a peut-être pas le style de. Il n'a pas les capacités pour jouer ce football-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il est moins bon.
Miguel, pour conclure.
Bah, je suis quand même d'accord avec ce que dit Ben, même si je suis plutôt de la vie d'FM. Il n'y a pas tout qui est acheté chez Simeone, loin de là. Je pense que c'est un très bon entraîneur, même si moi, ce n'est pas du tout ma came comme football. C'est un très bon entraîneur. Effectivement, ce que tu as dit, que beaucoup de joueurs ont pris leur envol avec lui, c'est peut-être. C'est pas anodin. Je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien parler à ses joueurs et les motiver. Mais je suis plus de l'avis de FM. Chaque match, on voit la même chose et chaque match, on s'emmerde. Quoi. C'est pour ça que ce manque d'évolution. Alors, on voit qu'il cherche, qu'il tâtonne, mais. Est-ce qu'il va y arriver, c'est la question. Mais voir ce football-là, moi, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je regarde les matchs de l'Atlético par intérêt pour voir si ça joue mieux au ballon, mais force est de constater que chaque semaine, en fait, c'est la même bouillie, quoi.
On va passer au focus de la semaine qui est consacré au Deportivo Alavés. Il y a un très bon papier qui est publié aujourd'hui sur Foria Liga consacré au nouveau Mendizorroza, le stade librement inspiré de San Mamés. D'ailleurs, ça irrite quelques supporters d'Alavés sur notre compte Twitter qui le prennent un peu mal que leur propre club dit qu'ils s'inspiraient d'Athletic. À l'heure actuelle, c'est 10 points. À la veste, après une défaite inaugurale 3-0 contre le Barça, ça fait quasiment carton plein. Ils ont mis une raclée au Rayo Vallecano. Là, pour le coup, Vallecas a tremblé d'horreur. 5-1. Vous en avez pensé quoi de ce match? Est-ce que vous pensez que, comme moi, je m'avance très fortement, à la veste peut être un potentiel de futur européen?
Je pense qu'ils vont être à la lutte comme l'a été Girona la semaine dernière, comme l'a été Retafé la semaine dernière. Je pense que s'ils arrivent à maintenir cette forme-là, ils sont en capacité de le faire. Parce que c'est une équipe qui cumule beaucoup de choses. Ils ont des joueurs qui sont en accord avec ce que va faire Leonardo. Ils ont des joueurs qui connaissent fortement les gars. Ils ont un banc qui est intéressant. Ils ont des joueurs qui sont capables d'avoir beaucoup de caractère. Parce que on peut prendre l'exemple du match contre l'Espagnol où ils sont menés 1-0, où le deuxième but de l'Espagnol est refusé et ils arrivent à se remettre dedans. Ils marquent deux buts pour l'avantage de gagner. Là, tu l'as vu contre le Rayo Vallecano, même si on peut encore parler du scénario du match, ils ouvrent la main, ils sont égalisés et quasiment des minutes après, ils reprennent l'avantage et après, ils savent dérouler par la suite. Donc est-ce qu'ils sont, ils ont une tête de potentiel européen? J'ai du mal à m'avancer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont meilleures et plus en avance qu'eux. Mais je pense que c'est une équipe qui est dans la lignée de saison dernière où ils ont été très compliqués à bouger et je pense qu'ils peuvent faire de belles choses. Et ils ont un bel effectif. Après, je vais faire un dernier mot en parlant du Polo Simeone. C'est typiquement le genre d'équipes qui ont été inspirées ou qui se sont inspirées librement ou pas librement, ça je ne sais pas, du Polo parce que le 4-4-2 avec Caleri et John Guidetti devant, c'est pas le football champagne, on n'est pas sur un football.
Et Caleri a marqué sur une passe de Guidetti. Et moi franchement, j'ai dû le revoir trois fois le but pour y croire.
C'est beau, on n'est clairement pas. Là, le seul joueur un peu excitant, hormis Johnny, parce que je l'aime beaucoup, ça reste Ibai Gomez. Je l'aime beaucoup, ça reste un super joueur de football, mais ça reste peu pour l'équipe qui, comme tu dis.
Ah, il y a Ruben Sobrino aussi.
Oui, mais il n'est pas titulaire.
Il n'était pas titulaire ce week-end, mais il joue souvent quand même.
Avec Bourgui, ouais. Il a été très bon contre l'Espagnol. Mais ça reste une équipe qui est quand même très marquée par le saut du Toulouse.
Oui, mais selon le Pito Abelardo, il est aussi habitué aux missions compliquées, comme le sauvetage de Gijón il y a 2 ans. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs de regarder le El Día Después, le jour où ils se sont sauvés. C'est extraordinaire. Si vous ne pleurez pas là-dessus, vous n'aimez pas le foot. Il y avait Alilovic dans cette équipe à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Miguel, d'Abelardo et de comment il a sauvé à la veste cette saison dernière, parce que c'était quand même très très mal barré. Et comment est-ce qu'ils sont toujours sur la lancée de la saison dernière ou est-ce qu'ils ont les moyens de faire mieux? Sachant que moi, je trouve qu'ils ont une très bonne défense et ils ont deux milieux défensifs. Thomas Pina et Manu Garcia, le capitaine, qui fait quand même très très peur.
Thomas Pina n'a pas joué encore.
Comment? Oui, Thomas Pina est blessé. Mais La saison dernière, quand t'as une doublette comme ça, tu fais attention à tes chevilles, tu mets les protège-tibias, hein, tu viens pas comme ça. Hein.
Wakasso fait le boulot. Après, je laisse la parole à Miguel, mais Wakasso fait le boulot, Miguel.
Oui, Wakasso fait un très bon match d'ailleurs ce week-end.
Pour moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ben. Ils ont une bonne équipe et je pense qu'effectivement, ils peuvent aller tutoyer les places européennes. Maintenant, je pense également, je crois que c'est toi, FM, qui l'a dit, que pas mal d'équipes ont de l'avance sur eux et que du coup, s'ils vont tutoyer ces places, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en avance sur eux, que ce soit le Celta, le Betis. Voilà, à mon avis, ils vont tutoyer ces places européennes, mais ils n'y seront pas. Maintenant, l'impact d'Abelardo sur cette équipe, c'est clair qu'il a un impact positif. Hein, ça on l'a bien vu. Le travail qu'il a fait l'année dernière pour les sauver, c'était très bon. Là, il continue sur la lancée. L'équipe s'est renforcée. Donc c'est une belle surprise en ce début de saison de voir qu'il continue sur la lignée de la saison passée. Maintenant reste à voir, parce qu'on n'en est qu'à la cinquième journée, non, sauf erreur. Donc
Oui.
reste à voir sur le long terme, peut-être autour de la 10e, 12e, 15e journée, voir où ils en seront. Ils ont réussi à prendre déjà 10 points sur les 15 premières journées, ce qui est très bien. Voilà, maintenant je pense que les journées à venir, ce seront peut-être les plus importantes pour savoir ce que vaut réellement cette équipe.
Après,
Est-ce que se battre pour le maintien, avoir arraché le maintien de haute lutte, ça permet aussi de mieux gérer les fins de match et d'aller chercher les résultats.
Oui, mais en plus, là, souvent, il y a des équipes qui surperforment en début de saison, mais qui ont un calendrier favorable. Là, le calendrier.
Oh les vantés la saison dernière.
Voilà. Là, pour le coup, le calendrier de Calabès n'est pas super favorable. Ils ont joué l'Espagnol, ils ont joué le Betis, ils ont joué Barcelone, ils ont joué Valladolid qui reste un poil à gratter, et ils ont pris Vallecano. Si les deux derniers matchs étaient favorables à eux, les trois premiers étaient compliqués, pourtant ils sont arrivés à prendre 4 points sur 9. Du coup, je pense que oui, après c'est un tout, c'est comment elle doit jouer. On l'a vu jouer, je l'ai dit, contre Valladolid, ils ont forcé le résultat. Contre le Betis, ils ont été solides. Contre l'Espagnol, ils ont aussi forcé le résultat et ils sont revenus des enfers. Là, ils ont fait encore prendre le caractère pour reprendre l'avantage avec le Rayo Vallecano qui est égalisé. Oui, ça reste une équipe. C'est un tout, c'est un bon mélange. Ils ont des joueurs caractériels. Ils ont Manu Garcia qui est l'âme de cette équipe et qui sait bouger les siens. En plus, il est parti les deux derniers matchs et ça continue de tourner. Du coup, oui, c'est un mélange qui fait que voilà, c'est un effet. Et que le 11 n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière. Johnny, il me semble qu'il était là aussi au Sporting Rerun quand ils se sont maintenus et là il est de retour. Il est de retour, il recôtoie Abelardo. C'est plein de petites choses qui fait que la sauce a bien pris et a pris dans le bon côté et c'est tant mieux.
On va parler d'un joueur dont que tu as évoqué dans ta première intervention, Ben, Ibai Gomez, qui est vraiment le joueur Abelardo. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il est arrivé à son premier match, il avait retitularisé, ce que ne faisait pas De Biasi. Comment tu l'appelais, le lieutenant de Biasi?
Le colonel.
Le colonel De Biasi. Et il le remet, il met triplé. Et il fait une grosse, grosse fin de saison. D'ailleurs, je viens de lâcher dans mon communio, donc j'espère qu'il va très bien marcher. Encore, parce que je vous mets une petite raclée, les gars, hein, sans vouloir me vanter.
Il est en vente.
Ouais, mais il est pour moi, je cherche pas. J'ai mis une grosse enchère dessus. Bref, trêve de parler de jokes. Ibai Gomez, c'est quand même la révélation avec Abelardo. Et Abelardo a senti aussi le potentiel qu'avait ce joueur dans cette équipe.
Après, ça reste pas, c'est pas un inconnu, Ibai Gomez. C'est pas un joueur qui l'a sorti de son chapeau, comme il est le petit Martin qui est latéral droit, et que lui, c'est clairement le joueur qu'il allait chercher, qui était dans l'équipe de jeunes et qui n'avait quasiment pas joué en pro avant que Abelardo arrive. Il est titulaire d'entrée, il me semble qu'en début de saison, il a même été capitaine. Mais oui, ça reste avoir la confiance d'un joueur comme Ibai Gomez, quand il est en forme et bien dans sa peau, il est très très bon. C'est pour moi, c'est même quand il est en forme, c'est une des plus belles pattes parce qu'il a quand même une frappe de balle qui est monumentale. Elle est magnifique sur le but contre le Rayo Vallecano cette semaine est vraiment excellente et c'est tant mieux d'avoir un mec en confiance dans une équipe On a parlé de Stouani pour Girona, avoir Ibai Gomez dans une équipe comme Alaves qui va jouer ou qui est prévu pour jouer le match, ça peut faire la différence.
Est-ce que, allez, je tente, attention, je ne vais pas vous choquer, mais est-ce que la défense, je parle des défenseurs centraux d'Alaves, ça ne serait peut-être pas dans le top 5 de Liga, sachant qu'il y a Laguardia qui, qui continue lui aussi sur sa fin de saison dernière, Malipan. Et Rodrigo Eli qui est actuellement blessé. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces trois centraux, ils ne sont pas connus, mais c'est peut-être ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux en Liga en termes de complémentarité et d'étanchéité.
C'est ce que j'allais dire. Je les trouve très, très complémentaires. Laguardia, c'est vraiment solide. C'est lui, on voit que c'est le patron de la défense qui tient la baraque, et je pense que cette complémentarité entre les trois, elle va être fondamentale pour Alaves, quoi, jusqu'à la fin de la saison. Et si je me trompe pas, ils ont pas pris beaucoup de buts depuis le début de la saison, et je pense que c'est en grande partie grâce à eux.
Mais depuis le 3-0, je crois qu'ils ont pris, mais pas beaucoup. Non, ça semble pas rien. Puis bon, après, comme on a dit, milieu de terrain, il y a ce qu'il faut pour bloquer les offensives. Wakaso, par exemple, qui est vraiment intéressant depuis le début de saison. Effectivement, c'est une équipe qui est rugueuse et défensive, mais aussi parce qu'ils n'ont pas trop de budget non plus.
Oui, ils se battent avec leurs armes, mais voilà. Mettre des coups, là le 5-1 il est pas logique. C'est pas un résultat qu'on attend d'une équipe comme Alaves qui est quand même connue pour être dur à bouger, qui est compliqué à bouger. Là il y a un Retafe Alaves qui arrive cette semaine, c'est le Chulisto, quoi. C'est deux équipes qui sont quasiment identiques.
Mais comment tu enchaînes bien ça, Benjamin, puisque nous passons notre dernière partie de ce podcast sur la sixième journée qui va se disputer en semaine de mardi à jeudi. On va parler de Alaves Retafe qui va se disputer à Mendizorroza, qui est un stade qui frise les 100% de taux de remplissage. Je crois que c'est le stade qui a le meilleur taux de remplissage en Espagne la saison dernière. Et donc, qui va affronter Retafe de Bordalas. J'ai une petite question. Est-ce que Bordalas n'a pas des airs de nouveau Rafa Benitez?
Là, je vais laisser Ben répondre.
Moi, franchement, j'en ai envie parce que c'est quand même un garçon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un garçon intéressant. Est-ce qu'il a des airs physiquement?
Non, pas physiquement, dans le football.
Non, mais pour le coup…
Physiquement, il y a Nicolas Villas.
Oui. Là, c'est le sosie de Nico Villas, ouais.
Et pour le coup, c'est un garçon qui sait ce qu'il fait et qui a un gros bagage tactique, qui sait très bien préparer ses équipes et qui sait très bien les ajuster pour les matchs. J'espère qu'ils vont faire une grosse saison et qu'ils vont honorer la prophétie que tu as promis à Bordalas.
Oui, seulement deux buts encaissés. Ça repart sur les mêmes bases d'une des meilleures défenses du championnat, parce que l'année dernière, c'était troisième. Djenné Dakonam, t'en penses quoi, milieu de terrain?
C'est pas aussi catastrophique que je le pensais, mais c'est même bon.
Ça progresse, hein?
Ouais, mais en plus, ça lui permet à lui de se remettre en jambe, parce qu'il était vraiment dans le sac en début de saison. Du coup, dès qu'il faisait une erreur, ça faisait quasiment but, parce que vu que le Retafe joue quand même bas. Dès qu'il y avait été une erreur d'approximation ou une erreur de jugement, ça fait un contre un dans la foulée. Du coup, là, de le mettre au milieu de terrain, ça lui permet de mettre les jambes, ça lui permet de retrouver des bonnes sensations, donc c'est tout bon pour tout le monde. Et là, je pense qu'il va reglisser en défense centrale parce qu'il s'est bien refait la cerise. Et ça a été bien parce qu'en plus, Retafe avait des absents parce que Bergara est toujours pas de
retour. Bergara, ça leur manque. Hein.
Ouais, Bergara, il leur manque beaucoup, il est toujours blessé. Il y avait Ignace Mekel qui était blessé, donc du coup là ça va commencer à être compliqué parce que à mon avis Arambari ne sort plus le choix numéro 1 comparé à la semaine dernière. Il serait qu'au milieu de terrain il leur manque quelqu'un.
Un pronostic tous les deux pour ce match?
0-0.
Non, moi je vois une victoire de Retafe.
D'accord, là, donc tu joues la cote. Bordalas, à titre personnel, je le verrai très 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 bien à Valence. Peut-être pas la saison prochaine, Mais il a vraiment des. Il a, je pense qu'il a l'ADN pour jouer à Valence. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, très bonne transition. Deuxième match à suivre de cette sixième journée, Valencia-Celta. Plus pour le Celta, parce que Miguel voulait absolument nous parler du duo d'attaque du Celta, qui a fait. D'ailleurs, ils ont fait 3-3 ce week-end au buzzer contre Valladolid.
Un
Deux points
match
de perdu.
sublime d'ailleurs, un match vraiment énorme.
Mais deux
Un
points.
grand bravo à Valladolid qui s'est jamais rendu, mais c'était vraiment un gros match.
Deux points de perdu, c'était pour l'anniversaire de Ronaldo Fenomeno qui est devenu actionnaire majoritaire de Valladolid pour son anniversaire. C'était pas mal, ça l'a fait ils sont battus jusqu'au bout et Celta qui peut quand même regretter pas mal de choses.
Ouais, le Celta peut regretter pas mal de choses. Ils menaient 2-0 puis 3-1 à un moment, et c'est notamment grâce à leur duo d'attaque, Maxi Gomez et Iago Aspas, qui est un duo fantastique, complémentaire. Ils s'entendent extrêmement bien. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en Espagne en termes de duo d'attaquants. Voilà, je prends un risque en disant ça, mais certains seront certainement pas d'accord, mais je pense que c'est même au-delà d'un Messi Suarez, je pense. Je pense qu'avec eux en pleine forme, le Celta peut et même doit viser l'Europe. Surtout qu'ils ont une très bonne équipe derrière, Lobotka, Pionecisto, Fran Beltran, c'est solide. Donc si le Celta arrive à être une équipe solide derrière, avec les buts des deux, ils peuvent vraiment faire de belles choses cette saison. Et voilà, je pense que ça peut être la saison du Celta grâce à ces deux joueurs.
Pour faire vite sur Valence, Dani Parejo est expulsé lors du derby, un peu bêtement. C'était certainement exagéré, mais c'était pas une intervention très à propos. Il est crevé, donc il est plus du tout lucide. Et bon, voilà, ce qui devait arriver arriva. Très mauvais contre la Juve. Moi, j'espère que Carlos Soler ne va pas jouer 6, mais 8. C'est-à-dire 8 meneurs de jeu. C'est-à-dire son vrai poste, parce que contre Villarreal, ses capacités de projection et d'organisation du jeu ont été complètement annihilées par sa position, sachant que Kondogbia était blessé. Alors, je ne sais pas si Kondogbia sera dans la convocation cette semaine. Peut-être que Coquelin sera titulaire. Il est rentré la une demi-heure après 6 mois de blessure au genou. Daniel Vaz, l'ancien du Celta, pourrait rentrer pour jouer 6, même s'il n'aime pas trop ce poste-là. Mais Carlos Soler en 8, ça me semble indispensable. Et peut-être Michy titulaire à côté de Rodrigo. Parce que là, ça, il faut prendre des points et ça urge. Et la saison dernière, c'était Zaza qui avait libéré le Celta. Le Celta aurait. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage en faveur de Valence ce match-là, si je me rappelle bien. Donc ça va être compliqué, cette partie.
Pour être titulaire.
Comment?
Il faut Procon pour être titulaire.
Je t'ai pas entendu.
Coquelin.
Ouais, Coquelin, c'est peut-être un peu court pour sa titulaire, mais il a fait une très bonne rentrée.
Attention, parce que c'est vrai qu'avec Troller en milieu, ça peut être intéressant.
Ça peut être pas mal. Coquelin, généralement, il jouait la saison dernière, il a joué sur un côté. Ouais, moi j'aimerais bien le voir en centrale. Donc on va voir, puis on verra la charnière si Jacabi Paulista est renouvelé ou si Murillo remplacera Jacabi ou Gabriel, parce que Gabriel a joué tous les matchs cette saison. Je crois que Garay est encore blessé. Donc on verra. Et peut-être que Lato aura du temps de jeu par rapport à Gaïa. Peut-être que Lato sera centré, ce que Gaïa ne sait pas faire. Donc, voilà. Mais un petit peu énervé Gaïa sur les deux derniers matchs. Bref, on va parler du gros choc de cette sixième journée. Séville-Real Madrid, match toujours particulier pour un certain Sergio Ramos, qui se fait pourrir à chaque fois qu'il revient dans son club formateur. Est-ce que vous pensez que Séville va prendre une grosse déculottée? Parce que les stats contre Levante étaient particulièrement étonnantes. C'est 8-6-2, mais Vaclik a fait 9 arrêts dans le match. 8 ou 9 arrêts, je ne sais plus, Ben, je ne sais plus en tête. 9 arrêts, c'est ça. Donc, dont un penalty sur le commandant Morales. Donc, est-ce que, voilà, s'il y a encore autant de travail, il risque de prendre très très cher. Est-ce que vous pensez que le Real d'Asensio va fesser Séville à Sanchez-Pizjuan?
Non, je pense pas. Je pense que Séville, ils avaient besoin d'un bon résultat ce week-end pour se rassurer. C'est fait. Je pense même que Machin ressortira probablement la même équipe, un joueur près. Du côté du Real, faut pas oublier, c'est aussi en construction avec Lopetegui. Donc, à voir l'équipe que Lopetegui va sortir. Comme tu l'as dit, FM, c'est toujours des duels particulier. Le Séville est toujours très très motivé quand le Real vient jouer sur ses terres. Donc voilà, l'un comme l'autre ont besoin de ces 3 points. Donc je pense qu'on va avoir un beau match, mais un match serré. Je ne vois pas une équipe battre largement l'autre.
Parce que Ben, la saison dernière, on se souvient, c'était au Bernabeu contre le Séville de Belitz qui avait pris un bouillon terrible en première mi-temps. Ils en avaient pris 4 ou 5 dans la musette.
Et pour le coup, là ce que moi, c'est inquiète, parce que Séville, dès qu'ils ont eu un gros match à jouer, ils ont déjà joué Retafé, ils ont joué le Betis, ils ont joué Villarreal. C'est pas le plus gros morceau de guerre, mais ça reste un habitué. Et ils ont joué le Barça en Supercoupe en début de saison. Ils ont perdu, ils ont pas gagné un match, ils ont fait que le 1-1 contre Villarreal. Ça reste un club qui doit se construire, qui a du mal à avoir un fond de jeu. La méthode matching prend son temps. Là, contre les Benté, ils ont eu un bon gardien parce qu'ils ont pris énormément la foudre sur les côtés, au milieu, dans l'axe, un peu partout. Et en plus de ça, ils ont eu les cadeaux de le Benté de l'autre côté, dans l'autre surface. Qui a permis à Belvedere de marquer un triplé et à Sarabia de marquer un but aussi. Du coup, moi, je ne suis vraiment pas super rassuré par Séville. Après, on ne sait jamais, dans un gros match, qui en plus, avec leur stade derrière, ça peut être différent. Mais je ne suis pas le plus serein pour les Andalous, parce que même si le Real, ça, c'est pas au top aussi, ça reste pas mal. Ils font des bons résultats, le contenu est intéressant. Et en plus, ils ont des meilleurs joueurs à peu près à tous les postes. C'est pour moi, ça peut être très compliqué pour ces deux.
Un pronostic tous les deux ?
3-0 pour le Real.
Ah oui, là tu mets cher.
Non, moi je vois un 2-1. 2-1 pour le Real.
D'accord. C'est ainsi que se termine ce podcast du lundi. Donc on se retrouvera la semaine prochaine comme d'habitude. Vous pouvez nous suivre sur foyaliga.fr évidemment, parce que nous publions plusieurs articles tous les jours. Normalement, il va y avoir une bonne interview d'ici la fin de semaine. J'espère, si tout va bien. Évidemment, notre previa, les partidas, évidemment, il y a 2 journées cette semaine, donc il y a largement de quoi faire. Après, on enchaînera sur la Roja et tout ça, la nouvelle liste de Luis Enrique. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, avec normalement une vidéo qui va arriver de Solé sur un certain Giovanni Lo Celso. Je pense que ça va beaucoup plaire aux supporters du PSG, qui doivent un peu se mordre les doigts de l'avoir vu partir. Parce que je pense que c'est un très bon recrutement pour les Béticos. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain. Merci Benjamin d'avoir été avec nous.
Normal.
Miguelito, hasta luego.
Hasta luego.
Allez, hasta luego. Ciao. Adeu.